Radio Prévert 105.9.
Bonjour, vous êtes sur Radio Prévert sur le 105.9. Beaucoup de choses au programme de cette émission, n'est-ce pas Charlotte ?
Oui Kylian, des chroniques et des interviews vous attendent pendant plus d'une heure. Mais nous ne serons pas seuls puisque Mathis, Anthony et Zina nous accompagnent. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, Anthony nous aidera à mieux connaître une race de chiens dont on a beaucoup parlé, le pitbull.
Tu enchaîneras avec ta chronique, Kylian, et tu nous parleras de foot. Et plus précisément dans l'Olympique Lyonnais. Le foot sera très présent puisque Mathis nous amènera lui aussi à la découverte du Real Madrid.
Quant à toi, Charlotte, c'est l'équitation et le cheval qui seront au cœur de ta chronique, mais aussi de ton interview. Anthony s'intéressera au métier de maître chien, tandis que Mathis nous emmènera dans l'univers des jeux vidéo avec son invité.
Et toi, Kylian, tu recevras une présence des forces de l'ordre. On ne va pas s'ennuyer pendant une heure. Je vous propose de commencer avec la chronique d'Anthony qui s'est intéressé au pitbull.
Bonjour. Le pitbull est un croisement entre le bulldog et le terrier. Ce type de chien a été créé génétiquement au 19e siècle au Royaume-Uni. Les éleveurs voulaient un chien avec la force du bulldog et l'agilité du terrier. En effet, le pitbull a été élevé pour combattre des taureaux et des ours dans des arènes. D'ailleurs, le nom pitbull signifie en anglais arène pour pit et taureau pour bull. Il a des oreilles dressées roses, une tête plate et large, de tout petits yeux, une mâchoire musclée et un museau court. Son corps est petit et musclé. C'est un chien à poils courts. Il peut être noir, châtain, brun, blanc ou gris. Ses yeux peuvent être de toutes les couleurs, sauf le bleu qui n'est pas admis. Les pitbulls sont interdits en France depuis la loi de 1990. Cette loi a permis de classer les chiens potentiellement dangereux en deux catégories. La loi de janvier 1999. Une série de critères morphologiques qui permet de déterminer si un chien ou non est concerné par la loi. Les pitbulls font partie de la première catégorie, ce qui signifie qu'il est interdit d'en importer ou d'en faire reproduire. On ne devrait plus avoir affaire à des chiens issus de croisements avec un pitbull. Pour cela, les femelles doivent être obligatoirement stérilisées et les mâles castrés. Pour terminer, je vais vous faire un petit point sur les deux catégories qui existent. La catégorie 1 concerne les chiens non inscrits au livre génétique, l'OF, et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilés aux chiens de race Staffordshire Terrier ou American Staff Terrier Massif Tosa. Pour cette catégorie, les chiens doivent être obligatoirement stérilisés pour les femelles et castrés pour les mâles. Tous les lieux publics sont interdits à ces chiens. Dans les lieux non interdits, ils doivent obligatoirement être muselés et tenu en laisse. La catégorie 2 concerne les races du Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa. Dans les lieux publics, ces chiens doivent obligatoirement être muselés, tenus en laisse par une personne majeure. Les propriétaires de chiens de catégorie ont plusieurs obligations qui visent à leur faire éduquer le mieux possible. Pour la sécurité de tous. Ils doivent suivre une formation qui permet d'obtenir un permis de détention, l'obligation pour le chien d'avoir une visite comportementale. Merci de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vos chiens et de vos autres animaux et respectez la loi.
Merci Anthony pour cette chronique, maintenant on n'en sait plus sur ce chien. Il est temps de parler sport avec Kylian. L'Olympique Lyonnais est l'un des plus grands clubs français, mais je le connais mal. Heureusement Kylian, tu vas nous en dire plus.
Bonjour, je vais vous parler de l'Olympique Lyonnais qui a été créé en 1950. Ce club est présidé par Jean-Marie Aulas depuis 1987 et les joueurs sont entraînés par Bruno Ganesia depuis 2015. Le club évolue en Ligue 1 depuis 1989. Ma passion pour l'Olympique Lyonnais remonte à mon, à mon plus jeune âge. Quand j'avais 6 ans, mon frère était pour l'OL et du coup j'avais le maillot de l'Olympique Lyonnais. Depuis mes 6 ans, je suis supporter de ce club. Certains joueurs m'impressionnent comme Anthony Lopez qui est un super gardien grâce à ses réflexes et Alexandre Lacazette qui est un très bon attaquant grâce à ses buts et ses passes décisives. J'adore la façon de jouer des joueurs. Cette équipe a une grande histoire car elle est sur le podium de la Ligue 1 tous les ans. Par contre, le PSG marque plus de buts et reste devant l'Olympique Lyonnais. Pour moi, le joueur à retenir de l'Olympique Lyonnais est Sonny Anderson. C'est le meilleur grâce à son mental qu'il tient de son père, qui lui expliquait qu'il ne fallait pas baisser la tête quand il faisait des erreurs. Durant la saison 1914, il a marqué 16 buts en 20 matchs et il rejoint Monaco. Il connaît une première saison marquée par ses blessures avant d'inscrire 21 et 19 buts en championnat les saisons suivantes. À Lyon, il y a également une équipe féminine qui a été jusqu'en finale de la Ligue des Champions et a battu le PSG 7-0. Elles ont été 5 fois championnes de la Champions League. Merci pour votre écoute. Félicitations à l'équipe féminine et masculine.
Merci Kylian, on s'écoute tout de suite un peu de musique avec Mustapha Jefferson de Niska. Et on se retrouve après pour la suite de notre émission avec mon invité pour parler de l'univers des chevaux.
Vous écoutez Radio Prévert sur 105.9. Radio Prévert, la seule radio que me laisse écouter mon père.
Thank you. Excusez-nous, il y a eu un petit couac. C'est Tinder Squeak que vous avez écouté. Vous êtes toujours sur Radio Prévert sur le 105.9. Et on retrouve tout de suite Charlotte et son invité, Monsieur Duviquet. Éleveur. Éleveur. Qui vont nous faire découvrir le monde de l'équitation. Bonjour Monsieur Duviquet. Charlotte, je te laisse poser ta première question.
Bonjour Monsieur Duviquet. Je vais vous poser la première question. D'où est venue votre passion pour les chevaux ?
Bonjour Charlotte et bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe. Eh bien, la passion, c'est, ça vient comme ça. Toutes les passions sont toujours... on ne l'explique pas. On aime ou on n'aime pas. On aime un animal, on aime un sport. Et ça, on ne peut pas le définir à l'avance. On ne peut pas vous faire aimer quelque chose qui n'existe pas chez vous. Donc la passion, c'est ça.
Depuis combien de temps faites-vous du cheval ?
Un peu plus de 55 ans.
À quel moment avez-vous su que vous vouliez en faire votre métier ?
Depuis le début, j'étais comme tout le monde, au collège et... en pension assez loin de mon domicile, et puis ça ne me plaisait pas du tout. Et je suis revenu avec mes valises, et trois jours après, j'avais trouvé un travail de palefrenier, un CAP de palefrenier soigneur à l'époque. C'est en 1962.
En quoi consiste votre métier maintenant ?
Le métier consiste toujours, enfin il y a eu plusieurs phases, hein. Il y a eu la phase grandissante de l'équitation, le sport, la compétition. Et ensuite il y a eu les examens, les BES et puis tout ce qui peut comporter autour de l'équitation. Et il y a eu ensuite l'élevage.
D'accord. Et en quoi consiste votre métier ?
Chercher... le meilleur cheval qui puisse exister, et ça, c'est pas facile du tout. Ça ne tombe pas d'ailleurs une marguerite. Et on essaye tous les jours d'améliorer, mais c'est pas très simple. Parce que ce serait trop facile si un très bon faisait avec un très bon poulain.
Et combien de temps mettez-vous pour dresser un cheval ?
Il n'y a pas de temps bien défini parce que c'est selon le cheval, soit il est précoce, il comprend tout très vite, soit il est plus tardif et à ce moment-là, ça demande 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certains.
Et comment les travaillez-vous ?
D'abord, c'est la confiance.
Vous avez des méthodes particulières ?
La douceur, la sensibilité et sentir aussi quel est... le comportement du cheval et comment doit-on se comporter vis-à-vis de ce comportement.
D'accord. Et quelle race de chevaux avez-vous ?
Oh, il y a eu toutes les races chez moi. Il y a encore plusieurs races.
Et le plus souvent ?
Le plus souvent, c'est le sel français. Il y a eu des chevaux camargues. Il y a eu des chevaux comtois. Il y a encore des chevaux comtois. Donc, vous voyez, peu importe la race, la passion, c'est l'élevage et les chevaux.
Et Monsieur Duviquet, combien avez-vous eu de chevaux ?
Oh, le plus que j'ai eu personnellement, 32. Voilà.
Ça commence à faire beaucoup.
Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup de travail, oui.
Et que faites-vous le plus souvent avec vos chevaux ?
Ils sont préparés pour la compétition, pour le jumping ou le concours complet, ou le dressage, ou bien le loisir. Pour certains, parce qu'il y a aussi des cavaliers qui ont besoin de chevaux pour le loisir. Et chaque cheval ne peut pas être un grand compétiteur. Certains peuvent être tout simplement un bon cheval de compagnie.
Et qui monte les chevaux pendant les concours ?
C'est moi-même.
Excusez-moi. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ?
Le plus difficile ? Oh, vous savez, toutes les phases sont difficiles. Faire naître un poulain, c'est difficile. Le débourrer, le préparer, l'élever, c'est difficile pour qu'il ne lui arrive aucun accident ou le moins possible. Tout est difficile, mais il ne faut pas trop y penser parce qu'à ce moment-là, on ne fait jamais rien.
Monsieur Duviquet, quel est le moment que vous préférez quand vous dressez vos chevaux ?
Le moment, c'est quand j'ai réussi à obtenir un petit quelque chose. Et là, je suis très satisfait.
Que deviennent vos chevaux à l'âge de la retraite ?
Ils meurent dans mes prés.
Quand... Vous les gardez jusqu'au bout ?
Non, non, c'est pas ce qu'il faut dire et répondre le cas échéant, mais j'élève mes chevaux pour les vendre. J'en vis, donc on les commercialise. Mais quelquefois, il y a un cheval qui vient, qui appartient à un propriétaire, ou quelquefois, enfin beaucoup moins maintenant, mais ces chevaux sont dans la phase retraite. Et cette phase retraite, eh bien, on les soigne le mieux que l'on peut jusqu'à leur mort naturelle. Ou bien, pour des raisons de souffrance, on les euthanasie, mais on essaye le moins possible.
Merci beaucoup. Et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut commencer l'équitation ?
Il faut être passionné, ne pas avoir peur et surtout avoir aussi un petit peu de chance parce qu'on peut tomber sur un bon cheval, un bon moniteur ou bien d'autres cas peuvent se présenter. Mais ça, je ne les évoque pas parce qu'il ne faut pas y penser.
Et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut travailler dans l'équitation ?
Alors là, c'est plus compliqué. C'est compliqué parce que aujourd'hui le métier d'éleveur est très complexe. Il est très difficile en rentabilité pour multiples raisons, que ce soit les raisons économiques, les difficultés financières pour certains, le contexte d'aujourd'hui qui est très difficile. Donc ça freine beaucoup l'élevage et il n'est pas difficile, mais il est conseillé pour ceux qui veulent s'installer d'étudier tous ces paramètres.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Duviquet. On vous laisse maintenant.
Merci, Charlotte, pour cette interview. Et merci à Monsieur Duviquet d'être venu jusqu'à notre studio pour répondre à nos questions. On continue notre émission avec Mathis. Si certains ne connaissent pas encore le Real Madrid, tu vas leur donner quelques indications.
Bonjour. Je souhaite revenir sur l'actualité du week-end de mon club de foot préféré, et pour tout vous dire, les joueurs de cette équipe m'ont encore une fois fait vibrer. Comme vous pouvez l'imaginer, ce club s'appelle le Real de Madrid, et ce samedi 28 mai 2016, les joueurs de Zinedine Zidane ont gagné leur 11e finale de la Ligue des Champions. Inimaginable comme record, non ? Pour vous décrire cette compétition, je ne dirai qu'une seule phrase : la Champions League est la meilleure et la plus passionnante des compétitions de foot de l'univers. Cette finale a donc confronté deux clubs madrilènes pour la deuxième fois de l'histoire de la compétition, à savoir l'Atlético contre le Real. Il y avait donc, selon mes calculs, 100% de chances que Madrid obtienne la coupe. Le suspense de ce match resta entier jusqu'à la dernière seconde, car la fin s'est conclue sur une atroce séance de tirs au but. Mais avant de vous raconter cette séance, nous allons replonger au début du match. La finale a commencé sur les chapeaux de roue. Le Real met un gros coup de pression sur l'Atlético et à la 15e minute, Sergio Ramos marqua le premier but de la rencontre. À cet instant, le Real était intouchable et les restait toute la première mi-temps. Durant la seconde période, c'était le contraire. L'Atlético a beaucoup attaqué. Nous avions l'impression que le Real jouait la montre en ne prenant pas de risques offensifs. Finalement, les joueurs de l'Atlético ont obtenu un pénalty, mais l'opportunité de revenir au score n'a pas abouti, car Antoine Griezmann a trouvé la barre transversale. Dommage, mais nous lui souhaitons un très bel euro avec les Bleus. Cependant, c'est Yannick Ferreira Carrasco qui relance la partie avec un but à 12 minutes de la fin. Passé de Monaco à marquer en finale avec l'Atlético, quel exploit. La suite est devenue tendue. Séance de pénalty au bout des 120 minutes de jeu. Cristiano Ronaldo donna la victoire à son club après un pénalty raté d'un joueur de l'Atlético. Finalement, la victoire est souvent à celui qui fait le moins d'erreurs.
Merci Mathis. Avant de continuer avec l'invité d'Anthony, Monsieur Gilles Delay, on s'écoute Cypress Isle avec Tequila Sunrise. A tout de suite.
¿Sabes qué, compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla. Yo te lo puedo mover todo. 80, 100 pájaros a la semana.
Tenemos toda la feria y limpio ese.
Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a hacer hombres ricos. Tomamos, ¿no?
sano.
Para la salud.
Para la salud. Primero yo.
Eat the worm, motherfucker. Tequila spice, hot night, feeling right. Sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico. Thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in hot fabrics with troops like Beirut. Upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey, yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. We came south of the border to complete this work order. We gotta get it. No looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute, flat for it. God is my witness. We got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Motherfucker.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga.
Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga.
I never knew money like this in the palm of my hand till I met the man with man hook up in big plans. Everywhere you look up, he got everybody shook up running for cover. The big bad wolf. Motherfucker, he was like a father figure. Showed me the bigger picture. Fucks laying on the corner. Don't let the pigs get ya. Not like these fools who don't comprehend. Who end up doing a 25 bit in the pen. You got that? He gave me a cup. I took a swig. The bitter taste of the mascal. Green worm shit. Dropping a lesson. He slapped my face. He said, listen, pay attention. Brother, you're my ace. But don't ever question. Just do what I say and you'll be rich. And keep this in your mind. Rats laying in the ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. Cheers, they all know your name. It's like fame. Wild women and money don't mix. Like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you and fucking clown you. Keep your shit in order. The money won't stop. Pretty soon you'll be on top. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die.
So get the money, nigga.
Shut eyes, my, how time flies and goes by surprise. My mentor passed on and passed on to me. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn, motherfucker, better kill me. Don't let me return, motherfucker, trust no man. Cause I'll be back, you understand, with a plan in my ace in hand. I want it all, I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it, let these words stick. You better be ready to die. Now take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise. Bloodshot eyes, realize we all born to die.
So get the money, nigga.
Sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die.
So get the money, nigga.
De musique, on continue notre émission sur Radio Prévert avec Anthony qui accueille Monsieur Gilles Delay, comportementaliste canin. Bonjour.
Bonjour.
Je suis curieuse d'en savoir plus sur ce métier. Je vous laisse la parole.
Vous êtes éducateur canin.
Bonjour Anthony, bonjour à toute l'équipe et à vos auditeurs.
Bonjour Monsieur Delay. Vous êtes éducateur canin.
Éducateur canin et comportementaliste.
Qu'avez-vous fait comme étude ?
Alors, je suis passé par un cursus professionnel, parce que je me suis mis un petit peu sur le tard. Et donc, en ce qui me concerne, ça a été une série de longues formations, sur lesquelles j'ai obtenu un certificat de formation qui me permet aujourd'hui d'exercer cette profession, avec aussi le passage obligatoire par le certificat de capacité.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, aujourd'hui, il revêt plusieurs casquettes. Il y a tout d'abord l'éducation canine. Donc ça, on va dire que c'est pour toute personne qui possède un chien et qui veut que son chien se tiennent correctement à la maison, ne fassent pas de dégâts, deviennent propres le plus rapidement possible, ne sautent pas sur les gens quand ils viennent en visite, des choses comme ça. On va dire que c'est ce qui préoccupe quand même 80% des gens. Ensuite, juste derrière, on a l'obéissance. Donc ça, c'est pour les gens qui voudraient, en plus de l'éducation, donc faire d'un chien obéissant, qui puisse répondre facilement à des ordres communs. On parle de l'obéissance de base, qui comporte quelques ordres comme la marche, le stop, le assis, le coucher et le pas bouger. Et puis ensuite, il y a le dressage. Donc le dressage, donc, qui s'adresse à une partie un petit peu plus réduite de la population qui détient des chiens, c'est-à-dire à peu près 20% de mes clients, et qui veulent faire quelque chose de très précis avec leurs chiens. Donc certains seront l'agility, certains ce sera le dressage sur troupeau, puisque je pratique cette discipline avec mes propres chiens, chiens de troupeau. D'autres qui voudront que je leur dresse leur chien pour la recherche de truffes. D'autres qui voudront faire du pistage avec. Enfin voilà, il y a plusieurs disciplines comme ça.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Par passion, uniquement.
À quel âge est apparu cette envie de faire ce métier ?
Alors, en fait, je pense que l'envie, je l'ai toujours eue, parce que dans la famille, on a toujours eu des chiens. Donc, j'ai été piqué très jeune. Donc, en fait, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu des chiens et on m'a toujours fait remarquer que j'avais une certaine facilité à m'adresser à eux et à obtenir des choses de leur part. Et un beau jour, un de mes voisins, qui est un ami, alors qu'il voyait que je galérais un petit peu dans ma profession, qu'il ne m'intéressait plus vraiment, que j'avais plus trop envie d'exercer, qui était dans un tout autre registre, hein, le transport et la logistique, m'a dit que ça pouvait être un métier et qu'il y avait des formations pour ça. Donc ça, c'était en 2007. Donc je me suis mis à la recherche de ces formations. Et là, je suis tombé donc sur un centre de formation qui m'a permis d'obtenir mon premier certificat, qui m'a permis d'obtenir ce fameux certificat de capacité aussi qu'il faut obligatoirement détenir. Et puis ensuite, j'ai continué à m'auto-former et à prendre une dernière formation donc, de comportementaliste, chose que j'exerce aujourd'hui en plus.
Quelles sont vos méthodes de travail ?
Oula, alors là, on va y passer du temps. Et je crois que le temps, vous n'en avez pas trop. Il n'y a pas une méthode de travail, il n'y a pas des méthodes de travail. Si je peux résumer, il faut avoir un certain feeling. Il faut arriver à analyser très rapidement avec quelle personne humaine on travaille. Et puis ensuite, analyser aussi les attentes de cette personne humaine. Et puis aussi, savoir analyser la capacité du chien. Parce que quelquefois, il y a des maîtres qui ont des très bons chiens et qui veulent, malheureusement pour le chien, en obtenir pas grand-chose. Et puis d'autres personnes, par contre, qui ont des chiens qui sont un petit peu plus à la ramasse, si je puisse m'exprimer ainsi, et qui vont vouloir obtenir beaucoup de choses. Et ça, c'est comme nous, hein, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas le même quotient intellectuel, aussi bien chez les chiens que chez les hommes. Donc il faut arriver à adapter en fait, la méthode de travail à la personnalité de l'humain et au chien.
Quel type de dressage proposez-vous ?
Alors je les ai énumérés tout à l'heure, on les redit ? Anthony ?
Oui.
Agility, troupeau, truffe, pistage.
Et combien de temps faut-il pour dresser un chien ?
Alors, je rejoindrai Paul tout à l'heure sur les chevaux. Il n'y a pas de temps. Tout dépend, comme je disais tout à l'heure, du maître, parce qu'il faut passer par le maître. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas directement sur le chien, je ne peux pas. Je suis obligé de montrer au maître comment il faut travailler, et ensuite, c'est le maître qui reproduit. Et le résultat sera un petit peu aussi dépendant de la capacité du maître de travailler sur son chien. Et puis ensuite, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, ça dépend de quelle recherche on a en termes de dressage. On imagine bien qu'un dressage sur troupeau, c'est extrêmement long. Le chien sera capable de travailler en autonomie sur troupeau qu'au bout de 2 ans à peu près, complètement, quoi. C'est-à-dire que ça deviendra un chien qui sera très, très, très utile. Et puis sur la recherche de truffes aussi, c'est assez long. Par contre, à contrario, l'agility, ça va relativement vite. On va dire qu'en une dizaine de séances, un chien il est capable de faire le tour du parcours d'agility assez facilement.
Et est-ce que vous avez déjà dressé, enfin, est-ce que c'est difficile de dresser un chien ?
Ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai dit avant. Hein. Ça dépend de tellement de facteurs différents que parfois, si je peux donner un exemple très précis, je pars parfois donc sur l'apprentissage de quelque chose de très précis sur un chien et je pars du principe que cet apprentissage va être facile et que ça va se passer tout seul et puis qu'en 24 ou 48 heures, ça sera réglé. Et puis en fait, ça ne fonctionne pas. Je m'aperçois qu'il faudra beaucoup plus de temps. Et puis inversement, Je m'attaque des fois à des choses qui me paraissent extrêmement compliquées, et pour moi et pour mon propre chien, si c'est par exemple sur mon chien que je travaille, ou pour le chien du client et le maître. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de quelques heures, c'est réglé. Donc tu vois, c'est très, très aléatoire.
Avec quelle race de chien travaillez-vous ?
Si je devais toutes les citer, ça serait trop long encore. On va dire que aujourd'hui, les chiens sont un petit peu les victimes de phénomènes de mode. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler du pitbull. Et donc, toutes ces races qui sont aujourd'hui classées comme chiens dangereux ont malheureusement souffert énormément de, leur, de l'effet de mode qu'il y a eu. Et d'une partie de la population qui s'est emparée de ces chiens, en fait. Et à partir de là, bah, ils ont eu mauvaise presse, parce qu'il y a eu plein d'accidents, il y a eu plein de choses qui ont été faites qui n'auraient jamais dû être faites, puisque ce sont des chiens déjà qui, au départ, ont un certain instinct quand même pour le combat, puisque tu l'as signalé tout à l'heure, ils servaient donc de combattants. Hein, toute la famille des dogs, hein, dès qu'on met quelque chose, bulldog, pitbull, etc., etc., bah, derrière, il y a quand même le combat, quoi. Donc c'est des chiens qui ont déjà ça dans leur gène. Donc si en plus, on les travaille dans ce sens-là, bah, ça ne va forcément pas arranger les choses. Et puis quand c'est fait par des gens bah, qui n'ont pas la maîtrise de l'animal, qui n'ont pas les connaissances suffisantes pour arriver à ce qu'ils veulent, bah forcément on va déraper et on va avoir des accidents. Et donc bah, la loi que tu as citée tout à l'heure, malheureusement, est le résultat hein, de cette dérive qu'il y a eu sur ces races-là. Sinon, je travaille toutes les races communes. Actuellement, la race, on va dire, à la mode, c'est le berger australien. Il y a eu un temps le Jack Russell, qui était très, très demandé. Le Labrador, qui a toujours la cote en France, hein, puisque le Labrador, c'est le chien qui est le plus détenu dans ce pays, avec le berger allemand. Et c'est aussi sur ces deux races-là, contrairement au délit de faciès qu'on fait aux autres chiens, c'est sur ces deux races-là qu'on retrouve le plus grand nombre de morsures.
Y a-t-il en particulier avec lequel vous aimez travailler ?
Les races ? Bah, le Border Collie, parce que d'abord, c'est mon chien... Je vis avec ces chiens-là depuis maintenant presque 20 ans et je les utilise donc sur mon troupeau. J'ai un tout petit troupeau, mais ils me sont très utiles quand même dans le travail. Ils permettent de regrouper le troupeau très rapidement, de le conduire d'un endroit vers un autre endroit. Hein. Donc, par exemple, quand il faut changer les moutons de pré pour des questions de pâturage, ils permettent de rentrer les bêtes aussi très rapidement dans un enclos ou dans un bâtiment pour effectuer les soins qu'on a besoin de faire sur le troupeau. Tu vois. Donc ça fait gagner énormément de temps. Le bétail est très peu stressé, parce que quand, par exemple, moi, toutes les brebis, elles sont nées chez moi. Donc tu vois, depuis qu'elles sont toutes petites, elles travaillent avec le chien. Donc du coup, bah, chaque fois qu'elles voient arriver un chien, surtout blanc et noir, elles sont presque contentes de le voir, quoi. Il y a même des moments où je les soupçonne de faire quelques petits clins d'œil de complicité avec le chien. Donc le Border Collie. Et puis ensuite, puisque c'est une race que j'ai travaillée auparavant, le berger allemand. Et puis voilà, puis après, bah, tous les chiens sont intéressants. Ils ont tous leurs caractéristiques et leur caractère propre qui fait qu'ils sont tous intéressants à leur niveau. Quoi.
Est-ce que vous avez déjà dressé un chien pour la sécurité ?
Alors, la question tombe bien. Actuellement. Actuellement, alors je suis en train d'aider un jeune qui a un chien donc qui n'a encore malheureusement pas atteint l'âge de travailler, donc de faire son stage en tant que chien de sécurité. Donc j'aide son propriétaire à avoir les premières bases d'obéissance, hein, les bases de conduite du chien, puisque là, on parle carrément de conduite. Et puis donc, il faudra encore patienter, je crois, 5 mois, et il pourra enfin intégrer ce stage, puisque le stage sur lequel il a appelé à travailler, il demande que le chien ait 18 mois. Et actuellement, le chien n'a que 12 ou 13 mois, je crois, donc tu vois, il est plus très loin de la date.
Et... C'est la race qui est beaucoup utilisée pour ces chiens, c'est laquelle ?
Alors, une période, le berger allemand. Et le berger allemand a été détrôné progressivement par le malinois. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que le malinois, c'était un fou furieux du travail. D'ailleurs, il est assez déconseillé à une personne qui voudrait en faire un chien de compagnie de prendre un malinois. Ou alors, il faut avoir énormément de temps à lui consacrer. Et trop souvent, on pense que simplement faire courir un chien... lui faire faire de l'exercice physique, ça va suffire. Et en fait, bah, ils sont comme nous. Si on oublie la partie mentale, et donc surtout sur ces races-là qui sont de génétique travail, ça va poser un problème. Donc il faut leur proposer des tâches à remplir, il faut les dresser sur des activités particulières pour qu'ils puissent se concentrer et utiliser leurs neurones et leur matière grise afin donc de se satisfaire.
Est-ce que vous avez déjà dressé un chien pour l'armée ou pour la police ?
Et non, ça c'est réservé justement à l'armée ou à la police.
Est-ce qu'un chien s'est déjà retourné contre vous ?
Tout dépend de quel niveau on place la gravité du retournement. Je me suis fait pincer plusieurs fois, c'est évident. Hein, quand tu travailles, moi par exemple, toi je reçois, si je fais une moyenne, 5 ou 6 clients par jour. Donc ça fait une trentaine de chiens par semaine. Ben, forcément, 30 chiens par semaine depuis 2009, et puis je suis quand même dans les chiens depuis que je suis gamin. Donc forcément, de temps en temps, tu as des incidents. Alors l'incident le plus courant, hein, c'est le pincement. Le pincement, il est très souvent dû d'ailleurs à de notre faute. Hein. C'est très souvent à cause de nous. Hein. On n'a pas mesuré le niveau de stress du chien, ou on lui a mis un petit peu trop de pression à un certain moment. Il ne pouvait pas se retirer de la pression, par exemple, que j'exerçais sur lui. Et donc, du coup, après avoir sans doute prévenu par des postures physiques, pourquoi pas un retroussement de babine et éventuellement un grognement, eh bien, le dernier recours qu'il a, hein, c'est de pincer donc, pour te faire comprendre que tu vas trop loin et de t'éjecter, quoi. Et puis, il m'est arrivé aussi une fois d'avoir un chien, je n'ai pas tout à fait compris là ce qui se passait. J'avais senti depuis très longtemps, et j'alertais son propriétaire aussi depuis très longtemps, sur le comportement un petit peu anecdotique de son chien. Et alors que je l'emmenais simplement en laisse, il a commencé à me bondir dessus. Il m'a attrapé une première fois la main. Ensuite, j'ai essayé de jouer l'ignorance, tu vois, pour essayer de faire en sorte que ça passe. J'ai continué à vouloir l'emmener en laisse. Là, cette fois-ci, il m'a attrapé le haut du bras. Et puis, il a fini par me mordre au côté, hein, donc au côté du corps. Et donc là, j'ai pas eu d'autre moyen que de le dégager avec le pied. Parce que bah, là, ça faisait quand même la troisième attaque consécutive en quelques minutes. Et la dernière, je sentais que vraiment, il voulait rester accroché à mon flanc, quoi, tu vois. Donc là, bon, bah, y a un moment où il faut savoir réagir rapidement. Et même si c'est déplorable d'en venir aux mains ou aux pieds, bah, dans certains cas, c'est malheureusement nécessaire. Et dans ce cas-là, bah, ma sécurité est en... engagé, donc j'ai pas eu le choix.
Est-ce qu'il y a des races plus faciles à dresser ou plus difficiles que d'autres ?
Non, comme je te disais, bien sûr, il y a des races qui sont réputées plus têtues, d'autres plus teigneuses, d'autres plus travailleuses, etc. etc. Mais moi, je remarque que si je prends par exemple 10 Australiens, j'aurais pas 10 Australiens pareils. Donc dans les autres races, c'est exactement la même chose. Même si on retrouve des traits de caractère communs aux différentes races, on est quand même en face de chiens, donc d'individus, avec son propre caractère, son propre potentiel, ses propres émotions, son vécu qui ne date pas d'hier, hein, puisque quand il est à l'intérieur de sa mère, eh ben, il commence déjà à capter des informations donc, à travers le liquide. Hein. Et donc après, ben, dès qu'il est au monde, il y a tout un tas de facteurs qui vont venir ou faciliter sa future vie ou au contraire la compliquer et la rendre parfois même voire très compliquée. Hein, on a différents syndromes aujourd'hui chez le chien qui sont assez reconnus et qui sont compliqués à traiter une fois qu'ils sont développés.
Est-ce que vous avez des chiens à la maison ?
Oui, malheureusement plus qu'un, puisque le plus vieux est décédé il y a 2 ans. Il est décédé de sa belle mort, il est décédé, il avait 17 ans. Donc pour un chien, c'est assez loin. Et puis là, actuellement, j'ai un deuxième chien donc, que j'avais pris un petit peu en parallèle du premier, donc, puisque j'avais besoin d'assurer un petit peu la relève. Et comme je trouve plus douloureux d'attendre que le chien soit décédé pour en reprendre un autre, donc j'ai voulu en fait les élever un petit peu en parallèle pendant 4 ou 5 ans. Et puis, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que l'ancien fasse autant de temps après que j'ai pris le petit, et tant mieux. Et donc, du coup, ils ont vécu 5 ans ensemble et j'ai pu vivre ce bonheur d'avoir deux chiens pendant 5 ans.
Quelles sont leurs races ?
Border Collie.
Est-ce que vous récompensez un chien qui fait un bon exercice avec de la nourriture, c'est une bonne chose ou non ?
Alors, encore une fois, c'est un point de vue. Je me heurte très souvent à des gens qui fonctionnent avec une méthode. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment de méthode. Si je m'aperçois que pour des raisons diverses et variées, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir récompenser la nourriture, par exemple dans la truffe, ou toi dans des travails précis, ou parce que le chien est très sensible, avec une approche très compliquée, etc. etc. Bon, ben là, je vais y aller. C'est pas ma tasse de thé, j'ai horreur de ça, parce que je pars d'un principe assez intéressant sur ma façon d'éduquer les chiens, c'est que je me base sur la hiérarchie. Et dans une meute canine, les chefs de meute ne partagent jamais leur nourriture avec les autres. Et donc du coup, je pars du principe que, étant donné que je dois quand même me placer moi en tant que, même si on n'aime pas le terme de dominant, je dois quand même me placer au-dessus de mon chien hiérarchiquement. Donc si je lui donne de la nourriture bah, c'est quelque part comme si, je lui disais, nous sommes égaux sur l'échelle hiérarchique. Et en, autre réflexion aussi qui m'a fait travailler donc, dans un autre domaine, c'est que je préfère l'échange affectif, c'est-à-dire que chaque fois que mon chien fait quelque chose de bien, je vais lui faire une très très grande démonstration pardon, d'affection. Et parce que c'est comme ça que l'on fait depuis la nuit des temps. Et on, tu as dû l'entendre un jour, on dit souvent que les chiens aiment travailler pour leur maître. Leur leitmotiv dans la vie, c'est travailler pour le maître, faire plaisir au maître. Et ils attendent donc de la part du maître, en échange, un témoignage d'affection, de reconnaissance, d'admiration. Et quand on les remplit de ça, bah ils sont heureux et ils continuent à travailler pour toi.
Merci,
Gilles Delay. Je t'en prie, Anthony, merci.
Merci, Gilles Delay, et merci, Anthony. Après le chien, on s'intéresse au cheval avec la chronique de Charlotte sur cet animal qui a toujours été présent dans la vie de l'homme.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique liée à ma passion, les chevaux. Comme toute espèce, il faut savoir que le cheval a évolué de la préhistoire à nos jours. Dès la préhistoire, sur les premiers dessins dans les grottes, le cheval est le plus représenté. Cela témoigne d'une fascination qui n'existe pas pour d'autres animaux. Même s'ils peuvent être plus gros ou plus puissants, ils fascinent parce que c'est un animal complexe, fort et fragile, domestique et sauvage. Il est un mélange de grâce et de puissance. Tout d'abord, 60 millions d'années avant l'Homo erectus, le cheval a été une proie pour l'homme. Ce dernier le chassait pour se nourrir. Quand les relations ont évolué vers la domestication, ce ne fut pas chose facile pour le cheval de faire confiance à l'homme qui le chassait auparavant. Il y a environ 500 ans, le premier ancêtre du cheval commence à être domestiqué, ce qui accéléra l'évolution. L'homme décide d'exploiter le cheval au service de ses projets au lieu de le manger. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cheval n'a pas toujours été grand et robuste. Il y a environ 5 millions d'années, le cheval mesurait à peine 30 cm pour 5 kg, environ la taille d'un chat. Les scientifiques l'appelaient Eophipus. Cela peut paraître étonnant car les chevaux domestiques d'aujourd'hui mesurent entre 1m40 et 1m80 pour 500 à 700 kg. L'augmentation de la taille du cheval s'étend sur une longue période. Cette évolution, même si elle nous semble interrompue, continue à œuvrer. De plus, il n'est pas impossible que d'ici quelques milliers d'années, la morphologie des chevaux change encore. C'est une simple question de temps et d'adaptation au milieu dans lequel ces animaux seront amenés à vivre. Au fil du temps, l'homme a utilisé le cheval pour sa propre évolution, comme pour construire des transports fluviaux, pour les travaux des champs, pour la chasse, aller à la guerre et combattre l'ennemi. Au fur et à mesure, l'homme n'a plus besoin des chevaux pour travailler car les outils modernes les ont remplacés. Cependant, l'homme reste proche du cheval, attiré par cet animal. Le cheval apparaît dans toutes les mythologies. Il nous a toujours fait rêver. Nos ancêtres pensaient qu'un animal aussi remarquable que le cheval ne pouvait pas être issu d'une race ordinaire. Le centaure, cette créature, mi-homme, mi-cheval, symbolise la bête qui vit dans l'homme. Le cheval devient un loisir. Il est aujourd'hui utilisé dans les centres équestres, dans le sport, saut d'obstacles, cross, course, pour la randonnée, ou encore au sein de la garde républicaine. Avec l'évolution, leur nombre a diminué. Il y avait plus de 3 millions de chevaux et 2 millions de chevaux de trait. Aujourd'hui, il reste moins d'un million de chevaux et presque plus de chevaux de trait. Le cheval de trait devait être fort et robuste, capable de travailler des heures dans les champs et de tirer de lourdes charrettes. Ce sont aussi des animaux au caractère docile. Les chevaux de loisir sont des chevaux très fins et rapides. Le cheval est moins présent, mais reste attaché à l'homme.
Instant, Kylian recevra un représentant des forces de l'ordre, l'occasion de parler de l'actualité. Mais avant ça, on écoute Dabunk avec Tout ce qu'ils veulent.
Une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce j'attaque, mensonge et mépris, j'attaque. Et dans ton pacte, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier, j'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey, oh, give me the fire, hey, oh, Lord.
Quand on est migré, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mille couleurs ou drapeaux, car toi ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On trie même les hommes, certains deviennent des proies. On fait des lois pour ça.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte et tu ne viens plus chez moi. Mon identité grandit sans cesse.
Je l'aime, c'est ma terre. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et haine vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer l'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Ici, gagner une galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Plus la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu ne viens plus chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Je prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses. En somme, je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu penses qu'il t'intéresse l'immigration sélective. Tu chantes la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Viens plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière tes mots. C'est de nous prendre pour des idiots.
Avec tout ce qu'ils veulent sur le 105.9 Radio Prévert. Après un peu de musique, Mathis accueillera par téléphone un expert de jeux vidéo pour parler de ce secteur d'activité. Avant, c'est ma seule terre d'espérance.
Mmh. bien que j'ai eu de l'aisance à partir vers l'inconnu. J'aurais pourtant jamais cru y mettre autant d'excellence. Mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur, le tordu. La besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on nomme des espérances. Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu à cette chose qui épuise-tu, me ferait des places et immense. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, je suis épuisé, y'a plus tu. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue. Ma saleté d'espérance. J'aurais voulu me prélasser entre divan et télé, mais y'a la sueur qui coule et les idées qui dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, m'aspire, me noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont apprivoisées. L'économie est une bible, consommation est leur ange. Et on prie l'esprit pillé pour qu'il nous laisse épargner. On croit qu'on décroche la lune avec nos ailes de mésange. Et quand je parle de mes projets introuvables chez le VRP, on trouve que je suis endiablé, on dit de moi que je m'enfonce. Fini par dire que je suis fâché, fauché, je deviendrai fâché avec ma saleté d'espérance. Les mots de tête ont repris et tous les mots qu'on s'est dit. Nos vieux plans, nos stratégies, valables pour changer trois mondes. On pense plus, on les oublie, on en rit et on sourit. Pourtant dans la tête réside une voix endormie qui songe. Elle sommeille dans un bon lit, à l'édredon bien rempli. Elle s'enfonce dans tendre blic, son lit ressemble à une tombe. Mais dans mon esprit meurtri, cette vie n'est pas endormie. Son lit doit être fait d'ortie, car elle gratte et ça me ronge. Elle m'impose tous ses ennemis, elle m'engraine vers les conflits. Blanche ma tête dans mon vomi, qu'elle conçoit les conséquences. J'ai des taches d'antipathie, des boutons de fièvre d'incompris. C'est ma saleté d'espérance. Tu entendras ce morceau, ça sera parce que je perdure. Ou bien parce qu'en coup dur, je l'aurais chanté dans le métro. Mais s'il passe à la radio ou s'il crache dans ta voiture, sache qu'à son stade d'écriture, j'étais assis dans un bistrot. Refusant de vivre des rimes, préférant vivre d'intérim. Pour laisser libre cours à l'art, sans patron, sans référence. Laissant loin de moi cette prime qui rend bien médiocrissime. Laissant mes mots devenir star, révolutionner cette science. Ma plume jouant de l'escrime pour m'aiguiser dans l'estime. Autant des formes assassines et pourtant je reste dans la danse. C'est que dans mon malheur prime, mon ami le plus intime. Ma saleté d'espérance.
On vient de s'écouter Rosé. Ma saleté d'espérance sur Radio Prévert. Notre prochain invité est au téléphone et avec Mathis, il va nous éclairer sur l'univers des jeux vidéo. Bonjour Monsieur Larose.
Quelles études faut-il faire pour fabriquer des jeux vidéo ?
Alors moi j'ai pas fait d'études, j'ai appris tout seul depuis très petit, mais la plupart des gens font quand même des études de programmation, de mathématiques. Ils commencent par souvent par une terminale S, par exemple, et après ils partent soit en DUT informatique, soit en fac d'informatique, soit dans des écoles plus spécialisées. Je sais qu'après, il y a des masters de jeux vidéo ou des écoles comme l'Engmin, par exemple, qui font un boulot super pour former les gens.
Comment sont créés les jeux vidéo ?
Derrière un ordinateur, 95% du temps. Ou derrière une feuille de papier quand on est concepteur. Moi, c'est derrière l'ordinateur toute la journée, donc j'ai les lignes de code avec un logiciel spécial pour créer, pour programmer, les animations avec un logiciel spécial pour faire des animations, le document texte pour écrire toutes les idées, les concepts et tout mettre en forme. Et après, voilà, c'est ça. Après, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unity aujourd'hui. C'est un logiciel très populaire et gratuit.
Est-ce que les jeux vidéo sont tous créés de la même façon ?
Pas du tout, non, pas du tout. Là, moi, je fais des vidéos indépendants, donc on est une toute petite équipe de 2 ou 3. Après, les gros studios, par exemple, ils vont avoir des logiciels bien plus... Ils créent souvent leurs propres logiciels. Mais bon, à peu près tous les vidéos se font avec un ordinateur, oui.
Quelles sont les différentes catégories de jeux vidéo ?
Les différentes catégories, bon, ça, c'est très difficile de les classer, il y en a plein. C'est comme si on demandait les catégories de musique, il y en a tellement que bon, c'est compliqué à classer.
Quelles qualités faut-il avoir pour être un bon concepteur de jeux vidéo ?
Un bon concepteur, il faut avoir beaucoup d'imagination, avoir vraiment... Il faut déjà connaître et aimer les jeux. Si on n'aime pas jouer, on ne peut pas comprendre comment designer du fun. Et il faut ensuite être capable d'avancer un grand nombre de règles les unes avec les autres. Être capable d'avoir un esprit logique quand même assez poussé, même si ça peut s'apprendre aussi par le tâtonnement au début. Mais oui, c'est ça, avoir de l'imagination, moi je dirais que c'est une des qualités les plus importantes. Et si on doit travailler dans une équipe, savoir communiquer surtout. Ça c'est très important. Bon, moi je travaille quasiment tout seul. Donc.
De quelle manière les jeux vidéo se sont améliorés ces derniers temps ?
Améliorés, ça dépend des industries. Il y a un gain en possibilités techniques dans la grande industrie des jeux vidéo. Pour les indépendants, ce qui s'est surtout amélioré, c'est les outils à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près, tout le monde peut trouver des outils pour commencer à créer. Alors tout le monde ne peut pas être professionnel comme ça parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais tout le monde peut au moins jeter un œil. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années, le fait de pouvoir comme ça télécharger un logiciel et du jour au lendemain se mettre à bidouiller des jeux vidéo.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo cartonne ?
Si je le savais. C'est un peu de chance, un bon coup de génie. Moi, j'ai eu beaucoup de chance sur mon dernier jeu qui a bien cartonné justement. Et j'ai essayé d'analyser les raisons. Et c'était pas évident. C'est surtout une histoire de moments en fait. Il y a des moments où tout à coup tel jeu va bien passer. Si on prend Flappy Bird ou par exemple qu'il était sorti à un autre moment, peut-être qu'il aurait été tout pourri. Bon ben là il a été téléchargé 1 million de fois. Bon voilà, c'est comme ça. Il y a des choses aléatoires, il y a des choses un peu moins aléatoires. C'est très difficile à quantifier vraiment.
Existe-t-il le métier de testeur de jeux vidéo ?
Oui, on appelle ça le QA testing. Je ne sais pas si c'est en anglais, je ne sais pas ce que dire en français. Mais c'est une qualité quoi, en gros. Moi j'en ai des gens comme ça, enfin surtout un ou deux qui font ça professionnellement, qui travaillent souvent pour des éditeurs ou des publishers et qui sont là en fait pour venir tester les jeux, pour vérifier la qualité, s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des problèmes d'équilibrage, s'il n'y a pas des bugs, etc. C'est un boulot qui existe, mais c'est assez contraignant. Enfin, ça demande quand même beaucoup de c'est répétitif. Je pense que c'est assez rébarbatif en fait. Il faut vraiment essayer plein de fois le jeu. Enfin, je pense que c'est pas un métier extrêmement amusant. Je préfère vachement créer les jeux que les tester en tout cas.
Ok. Quels sont les différents métiers nécessaires pour créer un jeu vidéo ?
Les différents métiers, dans une petite équipe, par exemple, d'indépendant, on peut avoir un game designer, donc c'est celui qui invente les règles et qui les ajuste bien. On a le programmeur, il peut y avoir plusieurs éventuellement. Le graphiste, qui peut être animateur aussi, donc c'est lui qui va faire bouger toutes les images, etc. Ou alors avoir un animateur séparé. Après, il y a un sound designer qui va s'occuper de créer le son, l'ajuster, etc. Il peut y avoir un compositeur aussi, qui va faire les musiques, donc. Après, on peut avoir un community manager qui va s'occuper de faire la communication, etc. On peut avoir un éditeur qui va se charger aussi de la communication et de fournir des sous, peut-être, par exemple, pour financer le projet. Il peut y avoir des gens qui testent. Il y a des bêta-testeurs qui viennent aider à vérifier les problèmes. Bon, mais moi, dans mon cas, on est deux. Moi, je fais programmation, animation, game design, enfin concept et tout ça, et mon graphiste. Et je fais aussi la musique, d'ailleurs. Voilà. Mais la plupart du temps, 3-4 pour une petite équipe, ça va. Après, dans les grosses équipes, le travail est vachement plus divisé encore. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 50 programmeurs et 1200 artistes, quoi.
Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ?
Ah ben oui, du coup, oui, pas mal. J'essaye de jouer pour voir les nouveautés qui sortent, me tenir un peu au courant. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est difficile de créer si on peut pas faire quelque chose. Par exemple, les gens qui font des films, ils regardent beaucoup de films, forcément. après, je travaille normalement, je travaille bien plus que je ne joue.
À quelle sorte de jeux vidéo jouez-vous ?
Alors, en ce moment, je joue à Rocket League, beaucoup trop d'ailleurs, enfin, j'y joue quasiment tous les soirs. Et je joue beaucoup à des jeux multijoueurs avec les amis, et sinon, quand je suis tout seul, je joue à des RPG ou des jeux indés, beaucoup de jeux indés.
Est-ce qu'un concepteur de jeux vidéo gagne bien sa vie ?
C'est difficile. Maintenant, moi, ça commence à être bien. Au début, c'était très difficile parce qu'il faut avoir le temps de se faire connaître. Mmh. Et c'est pas. Les premières années sont difficiles, on va dire. Après, concepteur, si on veut travailler par exemple en tant que salarié dans une boîte, dans une grande boîte, c'est difficile de se faire embaucher parce qu'il faut avoir déjà montré qu'on était un très bon concepteur. Et parce que par exemple, si on veut aller travailler sur le prochain Assassin's Creed, il faut montrer que on sait faire plein de choses. Et du coup, là, on est bien payé, je pense, mais pour y accéder, c'est pas facile. Donc, globalement, c'est quand même un métier qui demande vraiment de la passion parce que c'est pas forcément très très bien payé au début. Par contre, si on fait un titre qui cartonne, là, on peut toucher beaucoup d'argent, oui.
Bon, merci, monsieur Larose. Larose.
Avec plaisir.
Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir.
Merci, monsieur Larose de Souls Game. Et merci Mathis, je comprends mieux l'univers des jeux vidéo grâce à vous. Cette interview termine notre émission, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aussi à notre technicien Nicolas qui a réalisé cette émission. Merci aussi à toute l'équipe, Charlotte, Zina, Anthony, Mathis et Kylian.
Merci Kylian.
Merci à nos invités, cette émission a été subordonnée par la DRAC et l'Europe. Et enfin, merci à l'équipe enseignante qui nous a accompagnés dans la préparation. Restez à l'écoute de Radio Prévert.
Merci Diane.
Merci Kylian.